Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel. Bonsoir. Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Et Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume, rédacteur
bonsoir,
en
Julien.
Chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors, pour commencer, on s'intéresse avec vous sur ce projet de loi contre le séparatisme transmis par le gouvernement au président de l'Assemblée et du Sénat. Alors on sait désormais qu'il s'appellera officiellement projet de loi confortant les principes républicains, porté par Gérald Darmanin, par Éric Dupond-Moretti, avec de nouvelles mesures suite à l'attentat islamiste contre Samuel Paty, notamment sur les questions de haine en ligne. On écoute le ministre Darmanin.
Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir beaucoup mieux lutter contre l'islamisme politique. Alors, il y a deux grandes incriminations qui sont prévues dans ce texte avec le garde des Sceaux. La première, c'est la mise en danger de la vie d'autrui, et il n'y aura plus la possibilité de faire pression communautaire sur le service public. Des parents qui vont voir un enseignant pour leur dire « Vous arrêtez d'enseigner les caricatures, la liberté d'expression, demain ce sera une incrimination pénale. » Et un juge pourra dire, c'est extrêmement important, un juge pourra dire « Si vous êtes étranger, que vous êtes condamné à ce délit, vous pouvez quitter le territoire national. »
Voilà, Gérald Darmanin qui était ce matin l'invité de la matinale au micro d'Europe 1, évidemment. Vous avez aussi, dans le Figaro ce matin, interviewé conjointement Éric Dupond-Moretti et le ministre Darmanin. Vous connaissez évidemment parfaitement le projet de loi qui a été présenté il y a quelques semaines par le président de la République. Mais ça y est, là on connaît vraiment le détail, Guillaume Tabar. Il sera examiné en Conseil des ministres le 9 décembre prochain. Tout d'abord, est-ce que vous trouvez ce projet de loi équilibré?
En tout cas, il est complet, en tout cas complet par rapport à ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans son fameux discours aux Mureaux. C'est vrai que ce soit sur les associations, à la fois leur statut, vous savez, le fameux débat loi 1901, loi 1905, oui. Sur le financement, notamment le financement des cultes, sur l'enseignement. Bref, la palette est assez complète et assez conforme à ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Ajouter à cela toutes les mesures qui ont été prises à la suite, on vient d'entendre Gérald Darmanin, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. D'ailleurs, sur ce point, bien sûr, on ne peut que se réjouir qu'il y ait ces nouvelles incriminations, mais si un texte doit à chaque fois s'enrichir au gré d'un nouvel épisode, c'est signe que peut-être que dans sa conception, il y avait déjà un trou dans la raquette et qu'il a fallu le
oui,
combler.
Oui, car le texte, Guillaume Tabar, crée un délit réprimant la haine en ligne et des sanctions spécifiques pour les pressions exercées sur des agents de l'État ou des élus. Et un pôle de magistrats, nous dit-on, spécialement dédié à la lutte contre la haine en ligne, sera créé. Louis de Ragnel, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui finalement existait déjà dans les textes de loi?
Alors, en fait, oui, ça existait déjà, mais l'idée, par exemple, sur la question des magistrats spécialisés, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a des magistrats qui ne font que ça. Vous savez, c'est comme le parquet national antiterroriste. Avant, il y avait bien sûr des magistrats qui s'occupaient d'affaires terroristes, mais le gouvernement avait décidé justement de mettre une équipe de magistrats spécifiquement oui. sur ce sujet-là. Et en fait, ce que ça veut dire, si on dézoome un peu sur le sujet, c'est que le gouvernement a fait le diagnostic suivant, qui est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y avait rien entre le droit commun et le droit antiterroriste. Et en fait, il a fallu trouver une espèce de troisième voie pour chercher en fait à trouver des moyens de pénaliser, de sanctionner des personnes qui n'ont pas commis d'actes terroristes, qui par exemple publient des vidéos qui incitent à la haine en ligne, mais qui ne sont pas forcément un acte, une incitation à tuer.
Oui.
Et l'idée, voilà, c'était de trouver un peu cette troisième voie qu'on n'arrivait pas très bien à qualifier. Et en fait, ça concerne essentiellement aussi les agitateurs.
Mais ça pose quand
ils
même...
sont quand même très influents ouais. sur Internet mais et les réseaux sociaux.
Ça pose quand même, Michel Cotta, la grande question de la mise en application de ces oui. mesures. Parce que là, il va falloir mettre d'accord tous les réseaux sociaux, les géants d'Internet, et on sait à quel point c'est compliqué.
C'est-à-dire, c'est vraiment le point sur lequel on peut se poser des questions. C'est vrai que c'est dans cette loi telle qu'elle est présentée, essentiellement, d'abord, c'est une loi contre l'islamisme radical. Hein. Alors, on s'abrite derrière les principes républicains, mais c'est l'islamisme radical.
Oui.
Alors après,
c'est quand même... peut-être plus simple de le dire clairement
après,
dans le titre.
Après, c'est des usines. Non,
je crois que c'est une question constitutionnelle, Guillaume
Tabar.
Oui,
c'est obligation d'égalité dans la loi. Donc, bon. Mais on voit bien que sur les points importants, c'est des usines à gaz qu'il faut montrer, qu'il faut monter. C'est-à-dire comment repérer à longueur de gens, à longueur de temps, les mails qui appellent à la haine. Bon, ça, c'est d'abord un premier problème, c'est la réalisation.
Sur l'obligation de l'école à partir de 3 ans, voilà. Là, par exemple, les choses sont claires. Ça, c'est facile à mettre en application.
Mais, par exemple, l'application sur l'anonymat n'est pas passée dans cette loi. Et je pense qu'un amendement, quand même, devrait ajouter ça. Deuxièmement... l'école, faire un format national, un fichier national de tous les enfants, ça va pas être si facile. Hein, à partir de 6 mois, oui, ça va pas être si facile. C'est des gros trucs.
Et en
à
même
mettre,
temps, s'ils n'avaient rien fait, on aurait dit ils n'ont rien fait. Voilà.
Voilà.
Donc,
non,
le texte
mais justement.
Existe,
et puis, enfin, c'est sûr. À l'école, peut-être que les gens n'oseront pas de toute façon, même avec cette loi. Peut-être que les professeurs instruits oui, parce oui. qu'il est malheureusement arrivé à leurs collègues. Reculeront devant
en
le...
En tout cas, il y a un contexte pour tenter de libérer la parole. On continue voilà. d'en parler dans quelques secondes. 18h38, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, avec toujours le débat des grandes voix du mercredi. Michel Cotta, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. On parle donc de ce projet de loi qui, ça y est, a été présenté contre le séparatisme. C'est le ministre Darmanin et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui l'a présenté. On connaît donc le détail des mesures. Alors, on évoquait les trous dans la raquette, Guillaume Tabar, de ce projet de loi. Et c'est vrai qu'il y en a un. Je l'évoquais à l'instant avec Amélie Montchalin, juste avant vous, qui est donc la ministre en charge de la fonction publique. Eh bien, on sait aujourd'hui que les services publics, par exemple, sont noyautés par les islamistes dans le sport, dans certaines lignes de transport, dans les prisons. On sait que c'est un vrai sujet. Eh bien, figurez-vous que je vais poser la question. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de sortir d'un service public un individu radicalisé s'il n'a rien fait qui tombe sous le coup de la loi? La réponse est non. Voilà, la réponse est non.
Oui, et on se souvient même de la ministre des Sports qui avait été jusqu'à dire que non, pas du tout, il n'y avait aucun signe de radicalisation dans le sport, alors qu'on sait que c'est une des portes d'entrée.
D'où ma question, au-delà de l'affichage politique, parce qu'on sent bien que l'exécutif devait agir face à l'opinion publique, hein, la sécurité, cette question d'entrisme religieux est devenue une préoccupation importante des Français, mais est-ce que c'est du cosmétique ou ça peut vraiment changer les choses?
Bah, à la fois, il faut une loi, parce que on ne peut pas accuser sans fin un gouvernement de rester les bras ballants. Là, pour une fois, il y a un texte qui essaye d'aborder le plus grand nombre de questions possibles. On peut dire qu'il y a des angles morts. On peut penser, par exemple, que la question de l'immigration est un angle mort de ce texte qui n'est pas du tout abordé. La preuve, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même a refait ensuite un déplacement au col du Pertuis pour dire...
À
la frontière espagnole. Pour dire que, bien sûr, il ne fallait pas assimiler immigration à terrorisme, et ça, évidemment, mais qu'en même temps, il fallait se rendre compte que l'arrivée sur le territoire français d'un certain nombre de gens qui profitaient de vagues migratoires pour préparer aussi des attentats terroristes, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Ça, c'est aussi une réalité importante. Et il y a aussi une sociologie d'un certain nombre de quartiers qui entretient ce terreau-là. Ouais. Donc, ce n'est pas quelques dispositions juridiques nouvelles qui vont changer radicalement la face de la société. Mais en même temps, il faut bien prendre la question par un bout. Et c'est vrai qu'il faut des outils juridiques. Et au moins, ce texte les apporte.
Alors, est-ce que politiquement, ce projet de loi va devenir l'un des éléments clés du quinquennat Macron? Parce que c'est vrai qu'on était plutôt parti, avant la crise sanitaire, sur un angle économique, sur un angle de relance économique à l'issue du premier confinement. Est-ce que ça va devenir le régalien, l'élément clé de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron?
Alors, très vraisemblablement, après, je ne suis pas devin, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est les services de renseignement le disent, c'est que des attentats, en fait, on va en subir malheureusement encore d'autres. Mmh. Et donc forcément, le débat à chaque fois va revenir et on se rend bien compte aussi que l'opinion publique se durcit sur cette question-là. Donc il y a fort à parier quand même que Emmanuel Macron est attendu au rendez-vous sur cette question-là. Et je reviens sur ce que disait Guillaume Tabar. Ce qui est important, bien sûr, que Emmanuel Macron était très attaqué au début de son quinquennat parce que c'était son point faible, en fait, oui. Le régalien. Et aujourd'hui, bon, il...
Et pardon, mais qu'il l'avait verbalisé. Il pensait que l'islamisme radical, c'était d'abord un problème économique.
Bien sûr. Et social, oui.
Bien sûr. Et d'ailleurs, ça rejoint votre question du début. Souvenez-vous aussi au moment de l'attentat de la préfecture de police de Michael Harpon. On parlait des policiers radicalisés dans la police. La solution, vous savez ce que c'était? C'était de leur retirer leur arme. Vous vous rendez compte? Non, mais réellement, c'était ça la préconisation. Ouais. Et c'est ce qui avait été fait. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la prise de conscience pour Emmanuel Macron. Ce qu'il veut, c'est que l'opinion publique soit consciente de tout ça. Et soit consciente également que l'islam politique, en fait, se love dans notre droit. En fait, et paradoxalement, en fait, l'islam politique profite de notre état de droit pour précisément s'introduire dans les services publics, s'introduire au sein de la société. Et ensuite, on se rend compte qu'on est complètement coincé. Et du coup, c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que le débat n'est absolument pas terminé, même sur le plan juridique. Et il risque d'y avoir des passes d'armes assez tendues, même avec le Conseil constitutionnel.
Bien.
Qui n'est pas très clair en fait, sur cette question.
Michel Cotta.
Mais je voudrais ajouter que, pour répondre aussi à cette question d'infiltration, vous rappelez, le mot d'ordre a été pendant très longtemps la diversité, c'est-à-dire la diversité dans tous les services de l'État. Et au fond, C'est par ce biais-là, évidemment, que sont entrés un certain nombre de radicaux. Alors, la ministre vous disait tout à l'heure, il faut voir ça à l'embauche.
Oui.
Bon, mais si c'était si visible, et si on pouvait l'avoir, la certitude que quelqu'un n'est pas radicalisé après un entretien d'embauche, il
n'y
en aurait pas.
La stratégie
aurait pas.
De dissimulation,
le problème, c'est considérer le problème comme révolu, là, comme résolu.
Alors vous évoquiez un problème assez notable, Guillaume Tabar, ou en tout cas un choix lexical. Pourquoi ne pas avoir appelé les choses par leur nom et ne pas avoir donné à ce texte le nom de projet de loi contre le séparatisme?
Oui, alors, j'entends bien effectivement l'argument qu'un texte ne peut pas faire un traitement différent selon les communautés ou les catégories. C'est vrai, mais il n'empêche d'abord parler du séparatisme. En soi, ce n'était pas désigner quelqu'un en particulier, donc ça, on aurait pu contourner ça. Ensuite, il y a l'idée, et ça, le gouvernement l'assume, de dire qu'il fallait faire un texte positif. On est pour quelque chose, pas contre quelque chose. C'est vrai, mais en même temps, on le sait bien, défendre des principes en général, c'est malgré tout un peu noyer la spécificité d'un combat. Or, le propre du discours des Mureaux, c'était de désigner clairement, nommément, un ennemi.
Oui,
le langage de guerre, d'ennemi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Emmanuel Macron qui l'a employé. Bon. Et donc, vouloir une sémantique strictement positive, ça veut dire non, c'est pas, on n'est pas en guerre contre quelqu'un en particulier. Si, on est en guerre contre un ennemi précis. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que le texte aborde de front cette question. Les 57 articles, ils visent bien essentiellement l'islamisme radical.
Question complémentaire, Guillaume Tabar, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, qui sont à un moment été en confrontation, ouverte sur cette question de l'ensauvagement de la société. Enfin, il y avait ça et puis d'autres dossiers. Ouais. Là, ils semblent parler d'une seule voix. Ça y est, les violons sont accordés.
En tout cas, il y a un choix de communication très clair qui a été fait. On peut sourire, parce qu'il ne faut jamais être dupe des mises en scène gouvernementales. On sait bien d'abord, au-delà de la passe d'armes qui a eu lieu entre Darmanin et Dupond-Moretti sur cette question de l'ensauvagement, vous le rappelez, structurellement, l'intérieur et la justice, Beauvau et la place Vendôme, sont en opposition. Et donc là, l'idée, c'est de dire, attention, ce n'est pas uniquement le ministre de l'Intérieur qui défend un texte répressif, c'est bien tout le gouvernement qui porte une réponse commune face à cette menace.
18h46, vous restez avec nous. On va parler de ce nouveau conseil de défense qui s'est tenu ce matin. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui va en ressortir, vous. Moi, pas tout à fait. À tout de suite.
Europe 1.